Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Pop en Stock dans sa version transatlantique. Je commence donc par vous présenter mes collègues aujourd'hui. Antonio Dominguez-Seiva, directeur de Pop en Stock et co-animateur du podcast, professeur d'études littéraires à l'UQAM. Salut Antonio.
Salut, salut Hélène.
Hélène Machinal, professeure d'anglais à l'Université de Rennes 2 et notamment auteure de son dernier livre posthumé en série, Les détectives du futur en 2020. Salut Hélène.
Salut Hélène.
Shannon Wells-Lassagne, donc professeure d'anglais à l'Université de Bourgogne, qui a publié en 2017 chez Routledge un livre intitulé Television and Serial Adaptation. Bonjour Shannon.
Bonjour.
Et Louis-Paul Willis, professeur d'études cinématographiques, culturelles et médiatiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et qui a écrit plusieurs articles sur la série The Man in the High Castle. Donc, bonjour Louis-Paul.
Salut.
Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. On a décidé d'aborder une œuvre transmédiatique dont on a envie de discuter depuis un certain temps. C'est donc une œuvre populaire qui n'a pas de lien direct avec l'actualité. The Man in the High Castle ou Le Maître du Haut Château en version française. Il s'agit sans doute de l'une des uchronies les plus connues, un genre dont on va largement parler aujourd'hui d'ailleurs. The Man in the High Castle est d'abord un roman de Philip K. Dick, publié en 1962. C'est un roman qui a eu un grand impact et qui a valu à Dick le prix Hugo du meilleur roman en 1963. Donc, dès sa parution, il a déjà été très reconnu. The Man in the High Castle est une uchronie littéraire, un sous-genre qui est surtout émergé sous la plume des auteurs de science-fiction à partir des années 60. Par opposition aux uchronies historiographiques qui se sont multipliées au 19e siècle, et qui était écrite par des historiens surtout. Donc, en tant qu'uchronie littéraire, elle est particulièrement représentative pour deux grandes raisons. Son point de divergence, hein, ce moment où l'histoire diverge, se situe autour de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, comme près du tiers de toutes les uchronies, hein, selon une étude d'Éric B. Henriet, qui est un des grands spécialistes de l'uchronie, donc il a analysé des milliers d'uchronies, puis il a identifié le tiers de celles-là qui commençaient toujours au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, elle se construit aussi autour d'une mise en abîme uchronique, dont on va parler, une uchronie secondaire enchâssée dans le récit, semble d'abord correspondre au monde du lecteur. Donc, c'est un clin d'œil au lecteur, qui est un trait commun, en fait, du genre depuis ses débuts au 19e siècle, dès Geoffroy et Renouvier, jusqu'à faire désormais partie des horizons d'attente du lecteur, d'ailleurs. Quand on lit une uchronie, on s'attend généralement à y retrouver une uchronie mise en abîme, enchâssée. Donc, le roman de Dick est un roman choral, assez difficile à résumer. J'en donne quelques repères. Dans le roman, l'Allemagne nazie a conquis et annexé l'Europe continentale et l'Union soviétique, puis la côte est américaine. Dans les années 60, le Japon impérial et l'Allemagne nazie sont les superpuissances du monde et se livrent une guerre froide géopolitique autour des anciens États-Unis. Le roman s'ouvre donc en 62 à San Francisco et suit les péripéties de l'antiquaire Robert Children, spécialisé dans l'Americana pour une clientèle japonaise fétichiste des objets culturels des anciens États-Unis, de Frank Frink, un crypto-juif selon le terme du roman, donc un juif qui cache son identité, et vétéran de la guerre qui se lance dans une entreprise de fabrication et de vente de bijoux originaux. De son ex-femme Juliana, qui travaille comme professeur de judo dans la zone neutre et entame une relation avec un espion, et Nobusuke Tagomi, le ministre du Commerce dans le gouvernement d'occupation japonaise, qui prend toutes ses décisions en consultant le I Ching, un livre de divination chinoise, comme la plupart des personnages d'ailleurs. Certains personnages lisent aussi secrètement The Grasshopper Lies Heavy, La sauterelle pèse lourd, un roman uchronique écrit par un certain Abensen, dans lequel les Alliés vainquent l'Axe. Donc, Abensen, qui est ce fameux maître du haut château, ce fameux Man in the High Castle. À partir de 2015, une série est apparue qui est assez librement inspirée du roman de Philip K. Dick. Aujourd'hui, on va parler un peu du roman, bien sûr, mais surtout de la série qui est plus récente, qui est donc créée par Frank Sputnitz, qui est connu surtout pour son rôle important dans la scénarisation puis la production de The X-Files, donc une influence qu'on peut définitivement constater dans cette nouvelle série. The Man in the High Castle comprend 4 saisons de 10 épisodes et s'est terminée en 2019. Donc, la série s'inscrit dans la complexité narrative, d'ailleurs en germe dans The X-Files, qui est donc ces nouvelles séries qui sont de plus en plus complexes, qui sont ni des séries pas tout à fait, ni tout à fait des feuilletons, puisqu'on voit s'imbriquer dans la série énormément de récits courts et de récits plus longs, de temporalités parallèles, de flashbacks. Il faut dire que le roman contenait déjà en germe cette complexité-là. avec sa galerie de personnages très, très nombreux. Comme le roman, la série se déroule en 1962, ce qui est assez particulier puisque 62, c'était l'année d'écriture du roman, ce n'est pas l'année de conception de la série, donc on a là un décalage temporel, mais reprend globalement les mêmes personnages auxquels s'ajoute de manière centrale John Smith, interprété par Rufus Sewell, au dirigeant américain du Reich nazi en Amérique du Nord et sa famille. Son histoire et celle de Juliana, qui se retrouve dans la résistance, forment le cœur de la série, en particulier leurs dilemmes moraux, l'évolution de leur psychologie, leur confrontation. Ils sont d'ailleurs les deux seuls à apparaître dans tous les épisodes. L'autre changement majeur par rapport au roman, sur lequel nous allons revenir régulièrement aujourd'hui, est la mise en abîme uchronique. Plutôt qu'être un roman écrit grâce à un livre de divination, il s'agit de films tournés dans des mondes parallèles. C'est une des grandes forces de la série d'ailleurs. Donc d'abord, je vais passer la parole à Antonio qui va nous parler un peu plus du roman et de la géopolitique des Uchronies.
En fait, le roman donc paraît dans une année assez charnière, c'est 1962, donc on se rappelle évidemment c'est la crise des missiles de Cuba, ce qui va être repris d'ailleurs à un moment donné dans la série. C'est aussi le début de l'escalade au Vietnam. Et donc, il y a vraiment une sorte de paroxysme. On a beaucoup repensé dans ces dernières années à cette question des missiles, puisqu'on s'est retrouvé après cette longue période, ce demi-siècle de relative détente à l'intérieur de la guerre froide, puis de transformation dans un monde multipolaire, etc., etc. On s'est à nouveau retrouvé sous le spectre de l'anéantissement mutuel de deux grandes superpuissances, ce qui a donné une sorte d'étrange actualité. Donc, bizarrement, 1962, dans notre uchronie personnelle, est un peu revenu. Donc, c'est vraiment dans ce climat-là qu'il faut comprendre le maître du Haut-Château. Alors, Philippe K. Dick révisite en fait non seulement le genre de l'Uchronie, non seulement donc ce vaste genre que tu évoquais justement, né avec des précédents déjà dans l'Antiquité, etc., sous le type de spéculation plus ou moins métaphysique sur le temps, la possibilité de changer le temps, etc., etc., mais qui apparaît donc autour de la figure napoléonienne, ce qui est assez intéressant pour voir un peu les parallélismes entre ces toutes premières Uchronies et celles de Dick. C'est vraiment autour de la figure de Napoléon que apparaît cette idée que se serait-il passé si Napoléon était devenu le maître du monde, comme on aurait pu à un moment donné, notamment dans la perspective anglo-saxonne, le craindre. Donc c'est assez curieux de voir, donc c'est Napoléon et la conquête du monde en 1836, de un auteur qui s'appelle justement lui Napoléon, Geoffroy Château, avec l'idée donc de ce point de tournant où Napoléon ne serait pas tombé dans le piège moscovite et il aurait fui donc Moscou avant l'hiver 1812, donc ça aurait complètement changé l'histoire des guerres napoléoniennes et ça aurait permis donc effectivement cette sorte de conquête du monde. Donc c'est dire que l'Uchronie vraiment a dès le début un lien très, très serré avec la géopolitique et avec les grandes transformations dans le monde moderne, que cela entraîne, les nouvelles hégémonies, les nouveaux équilibres de puissance, etc., etc. Mais donc plus encore que ce genre, c'est un véritable sous-genre que Philippe K. Dick révisite. Et tu évoquais tantôt la quantité d'œuvres sur la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a un sous-genre spécifique qui est celui de la victoire nazie. Curieusement, ce sous-genre naît même avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est Catherine Burdekin qui introduit donc ce qu'on pourrait appeler même un mème, en fait, dans Swastika Night, donc en 1937, 2 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Suivi donc un peu plus tard par une nouvelle de H.E. Morton, I, James Blunt, en 1941. Et depuis, il y a donc entre ce moment où on n'est pas encore tout à fait techniquement dans l'Uchronie, on est plutôt dans une sorte d'anticipation au sens strict, mais qui, par le jeu de l'histoire, sont devenus rétrospectivement des uchronies. Et donc, il y a déjà ce sous-genre avec quelques œuvres avant que Dick ne reprenne cette idée. Et puis, il y a aussi un autre versant de cela, c'est le fantasme, la panique, l'hantise de l'invasion des États-Unis, déclinée sur plusieurs modalités depuis la fin du 19e siècle, depuis que les États-Unis sont eux-mêmes devenus une sorte d'empire, d'abord par rapport à l'Amérique, aux Amériques, et puis peu à peu, donc, à l'échelle plus planétaire. Dans ces récits d'invasion, il y a d'un côté le péril jaune, évidemment, et de l'autre, avec la guerre froide, le spectre de l'invasion communiste avec des films comme Invasion USA en 1952. Ironiquement, il y a un pulp des années 30 qu'on a appelé parfois le guerre-épée des pulps, des pulp magazines, qui annonçait à sa manière, donc très paroxystique, comme dans tous les pulps, la double invasion nazie et nippone des États-Unis. C'était Operator 5, donc une série de pulps consacrés à ce personnage du service secret qui doit faire face d'abord à une invasion, The Purple Invasion, l'Empire pourpre avec beaucoup de connexions à peine voilées avec l'Allemagne nazie. Et puis après avoir réussi pendant plusieurs épisodes, etc., etc., assez macabre d'ailleurs, d'invasion des États-Unis par cet empire-là, l'Amérique très affaiblie, elle est à nouveau envahie. Et puis cette fois-ci, c'est par le Japon. Et ce qui est assez intéressant, encore une fois, c'est que la série ne sera interrompue, en fait, cette invasion de l'Amérique par le Japon ne prendra fin que lorsque la vraie guerre va embarquer. Donc, il y a quelque chose d'assez curieux dans ces jeux entre hantise, anticipation, prise au réel et puis retour vers le passé. Alors, curieusement, Philippe K. Dick ne cite aucune de ces sources que je viens d'évoquer et il cite plutôt un grand classique de l'Uchronie qui est Jubilee, qui lui, en fait, reprend un autre imaginaire national qui est celui des sudistes victorieux. Donc, c'est curieux parce que c'est une sorte d'envers plutôt anthropique de l'idée de l'invasion extérieure. Finalement, Dick transforme la double référence, c'est-à-dire que d'un côté, il s'éloigne du traitement traditionnel du péril jaune en montrant beaucoup plus d'empathie avec l'occupant japonais, surtout par comparaison avec l'occupation nazie. Il y a bien sûr aussi une connexion assez étonnante par rapport à ce qu'était l'idée du péril jaune, qui est le fait de l'utilisation cardinale du I Ching, donc le livre des changements. Elle correspond à un engouement nouveau pour ce livre millénaire, notamment dans le milieu californien, puis strictement san-franciscain, puisque c'est en 1959 que Shunryu Suzuki arrive au temple Zen Soto de Japantown à San Francisco, et c'est là où ce temple Zen, qui originellement était destiné aux membres de la population nippo-américaine, va s'ouvrir aux derniers beatniks, donc, qui bientôt vont former, en 62 justement, le San Francisco Zen Center. C'est les tout débuts du New Age californien. Le I Ching va jouer donc un rôle important. Alors, dans le roman, il y a une certaine ironie paradoxale parce que ce livre de sagesse et de méditation taoïste va être utilisé dans un monde résolument fasciste. Alors là, il y a plusieurs manières dont on peut concevoir ça. Il y a le fait que Dick ne fuit pas les contradictions, au contraire, il les embrasse. Il y a quelque chose de l'ordre d'une contradiction très forte, surtout si on pense à ce qu'avait écrit Théodore Adorno justement sur le parallélisme qu'il créait entre son étude sur l'astrologie, justement à partir de journaux de californiens lors de son exil, et le fascisme. Alors, c'est assez curieux parce que l'analogie donc postulée théoriquement par Adorno devient une sorte de réalité à l'intérieur du livre de Dick. Et puis, bien entendu, il y a aussi un côté métatextuel puisque Dick avoue avoir lui-même commencé à utiliser le I Ching dans sa vie en 1961. Comme son alter ego dans le livre, donc Hawthorne Abendsen, qui avoue avoir en fait rédigé son livre, donc l'Uchronie dans l'Uchronie dont tu parlais, en utilisant intégralement le I Ching. Du côté des nazis, par contre, c'est quelque chose de différent qui se passe. Dick transpose ici une série de choses, il me semble. D'un côté, il y a encore une fois Adorno et la perspective des exilés de Weimar et des exilés de l'école de Francfort sur l'Amérique de l'après-guerre. Ces exilés-là vont avoir une vision très sinistre des États-Unis. Ils vont projeter, puis de la culture de masse, ils vont projeter le cauchemar qu'ils ont fui, le cauchemar nazi, sur un autre cauchemar, le cauchemar climatisé, comme dira Henry Miller, le cauchemar du capitalisme taylorien, fordiste, post-fordiste américain. Donc il y a, autour de ces exilés, il y a l'idée que pas seulement les puissances de l'Axe qui ont été fascistes, mais que le fascisme est quelque chose qui peut surgir n'importe où, à n'importe quel moment. D'ailleurs, ils vont publier un livre assez célèbre à l'époque, The Authoritarian Personality, donc une étude sur la personnalité autoritaire qui montre justement comment peut naître le fascisme. C'était la grande question, évidemment, que tous ces intellectuels se posaient. Donc l'idée d'une Amérique fasciste est quelque chose qui est très présent et ça va être repris justement par la contre-culture et on va parler. Et de les nazis de l'autre côté présentés par Dick sont loin d'être un bloc unitaire. Dick est en train de faire écho de certaines analyses qui commençaient à se faire sur le Troisième Reich qui insistaient surtout sur le côté polycratique du Reich, c'est-à-dire que sous le dehors d'un culte de la personnalité autour de Hitler, en fait, il montrait que ce qu'il y a eu surtout, c'est différentes personnalités, différents groupes, différentes institutions qui ont mené leur propre guerre. Donc, on le sait pour la Wehrmacht et la Gestapo, etc., etc. Et donc, chacun était, il y avait une grande prolifération d'institutions répressives de toutes sortes et entre elles, elles étaient dans une sorte de rivalité continuelle qui allait du côté le plus mesquin à un côté systémique et structurel, une sorte d'organisation du chaos. Et c'est ce que Dick met pas mal en scène autour des différentes cabales, des différents complots. Et c'est très différent, par exemple, de l'image orwellienne du Big Brother, du totalitarisme, un peu simplifié, si l'on veut, autour d'un simple culte de la personnalité. Alors, ça crée une duplicité généralisée dans un monde clairement marqué par une paranoïa propre à la guerre froide. Et la paranoïa, évidemment, rime avec Philippe K. Dick, puisque c'est le grand chantre de ce paradigme. On est dans un monde complètement étrange, de doubles identités. Tout le monde est un agent double, dire triple, etc. Alors, ce qui est intéressant dans la géopolitique de ce qu'il imagine, être cette Amérique envahie doublement, c'est au fond d'imaginer que la guerre mondiale ne pourrait mener qu'à une autre guerre froide. Et ça, c'est assez curieux parce qu'on est un peu dans le cauchemar de l'histoire, comme dirait James Joyce. C'est l'idée que n'importe qui eût gagné cette guerre se serait retrouvé dans une position de guerre froide. Parce que ce n'est pas seulement l'univers qui nous est présenté comme étant l'univers de cette Uchronie, mais même l'univers imaginé par l'auteur, donc alter ego Hawthorne Abendsen, c'est aussi une guerre froide qui serait entre la Grande-Bretagne et l'Amérique avec une inversion assez étonnante de la figure salvatrice de Churchill qui devient un nouveau tyran de la métropole. Et là, on retrouve un autre retour du refoulé historique national américain, c'est évidemment le spectre de la recolonisation, donc l'idée du retour en enfance de la nation. Comme si en 1962, on ne pouvait pas vraiment imaginer autre chose. Et ce qui est très bien réussi dans le roman, c'est que le jeu avec les novum, ils sont donnés par bribes impressionnistes, qu'on ne nous donne pas d'emblée tout un cours d'histoire parallèle où on comprendrait exactement ce qui était en train de se passer, mais au contraire, on suit des vies et de manière très impressionniste, l'idée qu'il y a un livre qui raconterait une autre histoire, ça fait que le lecteur implicite s'imagine que ce livre va raconter le monde où nous sommes, c'est-à-dire le monde où l'Allemagne et l'Axe ont perdu la guerre. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas ça non plus. Donc, qu'on est comme dans une sorte de boucle entre des visions alternatives. Le roman va nous confronter à cette bivalence sans la résoudre, ce qui fait que régulièrement, les gens trouvent que la fin du roman est vraiment nulle parce qu'on ne comprend rien, etc., etc. La fin du roman, c'est justement la rencontre donc entre Juliana, qui a réussi à empêcher l'assassinat de l'auteur par un agent nazi infiltré, et donc l'auteur, et donc c'est toujours ce moment très pirandélien d'un personnage qui rencontre un auteur, même si ici ce n'est pas sûr que cet auteur-là soit en train de créer le monde où ils vivent, et lui pose donc la question pourquoi avoir écrit Le poids de la sauterelle, et la réponse est une réponse du Yi King, telle est la vérité. Et c'est évidemment quelque chose de très métaphysique, très dickien. Ça fait que le livre est une vraie œuvre ouverte au sens de Umberto Eco. C'est ce qui fait que pour les universitaires, c'est une fin tout à fait réussie, mais que pour beaucoup de lecteurs, lectrices, c'est une fin très, très bancale. Dick avait l'idée de continuer. Il a abandonné après avoir écrit deux chapitres. Et dans ces deux chapitres, ce sera une piste qui va être exploitée aussi dans la série. Ce serait l'idée que dans la suite possible de cet univers-là, on retrouve notre univers. Et que là, à partir de ce moment-là, il y a comme ces trois univers en cohabitation étrange et que les nazis se seraient infiltrés dans notre univers. Je pense que c'est ça qui a dû pousser les concepteurs de la série à vouloir reprendre le roman pour une série. Le fait que c'était ouvert, je pense aussi que l'aspect choral du roman, et puis aussi le fait que c'est un vrai travail de world building, et je pense que ce côté un peu impressionniste et lacunaire a aussi permis l'expansion sérielle, et je pense que c'est ce qui fait que l'adaptation est particulièrement intéressante.
Il y a des choses que tu as dit qui m'intéressent beaucoup. Tu parlais de la guerre froide qui faisait récurrence toujours. Puis ça me faisait penser aussi que justement cette surreprésentation de la Deuxième Guerre mondiale comme point de départ des Uchronies, il me semble qu'il y a quelque chose qui se dessine comme une récurrence du cycle déflagration qui temps zéro, guerre froide, temps zéro, guerre froide. Et puis on a la série qui apparaît dans un monde post-11 septembre qui aussi, d'une certaine façon, mis fin à l'imaginaire de la guerre froide par une espèce d'imaginaire de la fin qui a redéclenché ce qu'on est en train de voir émerger comme une nouvelle guerre froide. Donc, cette espèce de récurrence comme ça de la géopolitique, je pense qu'il y aurait quelque chose à voir dans cette obsession du temps zéro dans l'Uchronie autour de la Deuxième Guerre qui est assez intéressante parce que je pense qu'on conçoit le monde. Désormais, on s'identifie toujours à un temps zéro, on est toujours post-Deuxième Guerre mondiale ou post-11 septembre. Ce que tu disais aussi sur le territoire américain, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est très courant dans les uchronies et les dystopies télévisuelles où on a un retour vraiment au territoire américain séparé, qui est vraiment très inspiré de la guerre de sécession, en fait, beaucoup plus qu'un imaginaire de l'occupation. L'occupation, elle fait juste refléter, au fond, la façon dont l'Amérique se sent culturellement. Puis on a comme ce territoire qui est toujours morcelé côte est, côte ouest, beaucoup plus que nord-sud, souvent dans les versions plus contemporaines. Mais on le voit dans Handmaid's Tale, on le voit dans plein de séries. Je pense qu'on est vraiment dans la construction d'un territoire américain qui est capable de se voir de manière unifiée.
Oui, oui, comment le spectre de la guerre civile, qui apparaît un peu avant, parce qu'il apparaît avec Obama, en fait. Il y a autour d'Obama, il y a le grand spectre de la guerre civile américaine. Et en fait, ce qui est curieux, c'est comment on est vraiment là en ce moment, on est dans ce paradigme-là. On est dans l'idée des États désunis d'Amérique.
Si tu dis qu'il y avait un paradoxe de mélanger le I Ching et le fascisme, mais je ne suis pas sûre de la manière qu'il l'utilise, si c'est si paradoxal que ça, au fond, parce que c'est jamais les autorités pour gouverner qui utilisent le I Ching. Au contraire, c'est toujours les individus pour savoir comment se comporter dans un système fasciste. Même quand c'est les Japonais qui l'utilisent, c'est toujours pour des questions personnelles. Par exemple, Tagomi, quand il l'utilise, c'est jamais pour prendre des décisions d'ordre géopolitique, comme on aurait pu le voir chez les nazis, par exemple, qui pouvaient utiliser certaines croyances, ou même chez les Chinois qui utilisent l'astrologie pour prendre des décisions politiques ou économiques. Mais dans ce cas-là, on est toujours dans les décisions personnelles. On est vraiment dans l'idée de l'opposition entre le libre arbitre et de se laisser gouverner par justement cette espèce de puissance-là. Donc, moi, je ne vois pas tant une contradiction.
Il y a un article en ligne, c'est Seon Im, qui parle de ça, le rapport avec Adorno, le rapport avec le fait que ça fonctionne de manière complexe dans le roman. C'est plutôt un outil d'émancipation, mais à partir de l'idée qu'il y a un ordre dans le chaos qui est plus vaste que la situation présente. Et donc, c'est intéressant parce que le livre I Ching a été créé à un moment de grande turbulence politique, etc., etc., et dans l'âge de bronze. Et donc aussi, cette idée de permanence, le côté très taoïste et tout ça, au-delà de quelque chose qui peut sembler absolument anxiogène et absolument privé de tout sens.
On est dans les années 60, puis on est juste avant cette espèce de théorisation-là par les sémioticiens de l'idée des mondes possibles, en fait, de la fiction comme monde possible. Et le I Ching permet d'ouvrir vers la série qui va, d'une certaine façon, littéraliser l'idée des mondes possibles en monde parallèle. Et donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que le I Ching est vraiment présenté comme une machine à fiction qui va être réactivé d'une autre façon dans la série. Donc,
Oui, Dick a été interviewé là-dessus. Il dit qu'effectivement, dans Le Maître du Haut Château, il a utilisé réellement le I-Ching. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les personnages utilisaient le I-Ching, lui, il faisait les hexagrammes et c'est avec ça qu'il continue. Donc, il y a un côté où il pient un peu dans le procédé, ce qu'il transfère évidemment sur Avincennes. Et donc, il y a un côté de mise en abyme multiple du fait que le livre lui-même a fonctionné comme ça.
Je pense que c'est un très bon lien vers Hélène. Je te laisserai prendre la parole.
Merci. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette série, c'est, je pense, la façon dont la série conjugue l'Uchronie et les mondes parallèles, hein, comme une spécificité de la série, hein, par rapport, au roman, puisque le roman de Dick introduit évidemment un monde alternatif, hein, mais il n'en propose pas une expansion sous forme de monde parallèle pluriel, qui deviennent même dans la série un multivers. Hein, donc, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on a dans le roman. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a particulièrement intéressée, c'est la façon dont ces mondes parallèles se construisent dans un premier temps et ensuite se multiplient. Effectivement, dans les saisons 3 et 4, on va même très clairement utiliser le terme de multivers. On a même une modélisation de ce multivers lorsque le responsable nazi de Lackawanna révèle à Smith toute son étendue. Et une uchronie, ça implique de fait une divergence. Hein, donc, un moment où les sentiers bifurquent, hein, un moment où un autre monde se construit sur un événement historique majeur dont la conclusion n'est pas celle que nous connaissons nous dans notre réalité. Comme dans beaucoup d'uchronies, dans Man in the High Castle, c'est la Seconde Guerre mondiale hein, qui fait l'objet de ce moment de divergence, puisque ce sont donc les nazis et l'Empire japonais qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et se sont partagés les États-Unis avec cette zone tampon hein, dont on a parlé au milieu. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait ici que l'Uchronie, finalement, elle est cantonnée à la fiction et elle ne peut exister sans la conscience qu'ont les récepteurs et les réceptrices de cette divergence. Donc, il faut un monde réel de référence pour que la divergence soit constatée. Sinon, on n'a pas cette divergence, hein, bien entendu. Donc, ce qui commence à devenir spécifique à la série, à mon sens, dans un premier temps, c'est que c'est le monde de référence, donc notre monde, hein, qui va commencer à faire retour dans le monde diégétique sous la forme de ces bobines de film qui montrent justement ce que nous savons, a priori, être la véritable issue, de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire donc la défaite, hein, des Allemands et des Japonais. Et pour les personnages de l'Uchronie, dans un premier temps, bien entendu, ces images ne peuvent pas correspondre à une réalité quelle qu'elle soit. Et c'est d'ailleurs la première réaction hein, de Frank et de Juliana lorsqu'ils visionnent ces films. Et donc, ce qui apparaît immédiatement hein, dès la première saison dans la série, ce qui apparaît immédiatement avec ces bobines de film dans la série, c'est la question de la vérité des images. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est central dans la série, le fait de savoir s'il peut y avoir une vérité des images. Et cette question de la vérité des images, elle commence à être associée aux bobines de film et à ce qu'ils exposent. Il y a un moment dans la série où Juliana dit très clairement, They look real because they are real. Mais si ces films disent vrai, ils demeurent à ce stade-là dans la série uniquement des images. Hein, donc des images qui peuvent avoir un impact de type propagande sur la population, mais qui ne vont pas changer la réalité diégétique et les systèmes politiques autoritaires qui dominent sur le territoire américain. La fin de la saison 1, de ce point de vue-là, est très intéressante parce qu'elle se termine avec un cliffhanger relativement saisissant hein, de ce point de vue, puisqu'on voit donc Tagomi apparaître dans le monde alternatif où les Alliés ont gagné la guerre. Et là, on n'est plus en présence d'images. Il s'agit plus d'images projetées dans la réalité diégétique uchronique seconde, enfin, ou première, si on considère que la nôtre est mise en abîme. Hein. On n'est plus en présence d'images projetées à partir de bobines de film. C'est par la méditation, dans un premier temps, qu'on passe d'un monde à l'autre. Et en tout cas, c'est par la méditation que Tagomi peut se changer de monde et parvenir arriver dans le monde qui correspond à notre version de l'histoire avec un grand H. Qui devient alors, à ce moment-là, dans la série, un monde diégétique, hein, qui n'est plus médié de ce point de vue, qui n'est plus médié par une image dans la série. Hein. Il s'agit bien à ce moment-là d'images de la série. Et là, il y a une bascule qui, je pense, est importante. Donc, à ce moment-là, c'est notre propre monde, d'une certaine manière, qui semble se déployer sur nos écrans. On va ensuite avoir deux passages assez longs dans les saisons 2 à 4, où certains des personnages vont aller vivre pour un temps relativement long dans ce monde qu'il ou elle considère comme alternatif, mais qui finalement semble toujours correspondre au nôtre. Donc, c'est les épisodes où Tagomi retrouve sa femme et son fils, avec Juliana également. C'est là aussi que Juliana, enfin, c'est ce qui va aussi permettre à Juliana et à Tagomi de comprendre qu'ils ont une connexion un peu différente de celle qui peut exister entre les autres personnages, puisque Juliana, dans ce monde alternatif, est sa belle-fille et donc la mère de son petit-fils. Donc ça, c'est la première série d'épisodes. Et puis d'autre part, on a les épisodes où Juliana se rapproche de la famille Smith et au terme desquels John Smith, qui est donc devenu traveling salesman, se fait tuer en voulant protéger Juliana. Alors, dans la saison 2, en fait, on pourrait aussi dire que d'une certaine façon, les films deviennent un ressort diégétique. Donc, un ressort diégétique qui nous ramène à nouveau à la question de la vérité des images, puisque Tagomi va utiliser ce séjour qu'il effectue dans la réalité parallèle pour en rapporter une bobine de film dans le monde uchronique, qui va lui permettre de faire croire aux nazis que les Japonais ont la bombe atomique, et donc ainsi d'éviter une troisième guerre mondiale. Donc, avec ce passage de la bobine de film d'un monde à l'autre, on retrouve à nouveau cette question de la vérité des images et de la manipulation que les images peuvent permettre. La saison 2 introduit, je pense aussi, un autre changement qui annonce un autre aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est le moment où on bascule dans la science-fiction, qui s'opère donc avec cette saison 3. L'autre changement donc sur lequel je voulais revenir qui introduit la saison 2, c'est le fait que Juliana voit à ce moment-là un film qui ne révèle plus des images d'un passé alternatif, mais des images de l'avenir, où on voit San Francisco détruite par une bombe nucléaire. Donc la question de la vérité des images, elle va faire à nouveau retour avec ce film, parce que dans ce film, Joe exécute Frank. Le film révèle déjà que Joe est lié au régime nazi, alors qu'à ce moment-là de la série, si vous vous souvenez, il semble plutôt aider la résistance et seconder Juliana. Donc l'héroïne va devoir faire un choix. Et c'est à ce moment-là qu'elle va laisser Joe s'échapper en lui déclarant qu'elle le croit lui et non les images. Donc on voit réapparaître cette question de sur quoi peut-on s'appuyer, peut-on s'appuyer sur ce qu'on sait d'un être humain ou peut-on s'appuyer sur les images et ce que les images disent de cette personne. Pourtant, on comprendra assez rapidement que, en fait, les images disent vrai, mais il faudra attendre la saison 3 pour que Juliana comprenne. Donc, c'est dans cette saison 3, comme je l'évoquais tout à l'heure, que la science-fiction devient, je pense, le genre dominant de la série. À la fin de la saison 2, Abenson, qui a manipulé Juliana encore grâce à un film pour éviter la destruction de San Francisco, lui permet de retrouver sa sœur, Trudy, qui était décédée dans la saison 1. Et on va comprendre dans la saison 3 que certains personnages peuvent traverser d'un monde à l'autre. Tagomi et Juliana changent de monde grâce à la méditation. Dans la saison 3, on voit apparaître l'idée que certains personnages peuvent traverser le plan astral s'ils ont en fait avec eux un film. Le film devient une sorte de sésame qui permet le passage d'un monde à l'autre. Mais pour revenir au genre de la science-fiction, en fait, il va devenir dominant dans la série avec l'introduction du portail qui permet à Himmler et ensuite à Smith de fantasmer un contrôle total de tous les univers parallèles découverts. Et c'est là qu'on voit des agents nazis qui commencent à mener des opérations d'espionnage et aussi de collecte de connaissances scientifiques qu'il rapporte dans le monde uchronique. Le portail est donc évidemment intéressant parce qu'il introduit la notion de seuil, il introduit la possibilité d'un passage, d'une voie de transit et d'une circulation bien plus vaste et systématique que ce qu'on avait eu précédemment. Et puis, il s'accompagne de cette espèce de lumière qu'on peut pas regarder et qui marque le moment où le passage s'opère. Donc, ce qui me paraît intéressant à ce moment-là de la série, c'est qu'à nouveau, on constate que les mondes deviennent de moins en moins étanches les uns aux autres. On voit s'opérer des passages. Les mondes ne sont plus étanches ni accessibles que par les images, hein, ce qui était le cas au début dans la série. À partir de la saison 3, donc, ce qu'on pourrait appeler cette fin de l'étanchéité entre les mondes va rattraper Juliana, puisque elle commence à réussir à avoir des souvenirs, d'une certaine façon des images, hein, mais ce n'est plus des images dans des films. Elle commence à réussir à avoir des souvenirs d'un lieu secret, qui est en fait la Kawana, l'endroit où se trouve le portail, et des souvenirs d'un lieu secret où elle voit aussi Joe l'exécuter. Et ces images vont la hanter et vont finalement la conduire, après qu'elle aura trouvé les plans du site secret dans la manette de Joe, à lui trancher la gorge, hein, ce qui est aussi un des moments importants du film. Donc, c'est une série qui, moi, m'a beaucoup intéressée pour cette récurrence, hein, du questionnement sur la véracité des images, mais aussi sur le fait que les images ont un pouvoir de propagande et de manipulation. Elle souligne ces images, le fait qu'elles peuvent devenir un outil de contrôle, un outil de surveillance. On a ça à plusieurs reprises aussi dans la série, par exemple dans la saison 2, quand Juliana tue Dixon, justement, hein, dans le cadre de cette manipulation opérée par Benson, mais elle tue Dixon pour récupérer les images, où elle parle avec Thomas de sa maladie et que la résistance veut utiliser pour anéantir Smith. Donc là, on est dans un passage où c'est la question de l'image issue de la surveillance qui peut permettre un contrôle des populations. Et dans la saison 4, on voit revenir aussi cette question-là avec Abenson qui est filmé par les nazis dans des séquences où, vous souvenez, où il discrédite les films montrant une réalité alternative. Hein. Donc l'image peut permettre des manipulations. Donc avec ces saisons 3 et 4, les mondes parallèles existent, hein, et construisent un multiverse. Et ce qui me semble spécifique à la série, il me semble que ça apparaît, cette spécificité, plus clairement si justement on la compare avec une autre série qui joue sur les mondes parallèles, hein, Fringe. Donc on retrouve, dans les deux séries, hein, dans Fringe comme dans Mind and the High Castle, on retrouve cette notion de monde totalement similaire, hein, monde calqué l'un sur l'autre, avec des personnages qui existent dans les deux mondes. On peut voyager dans le monde parallèle que si la version qu'on avait dans ce monde parallèle est morte. Donc, on retrouve la notion de monde similaire avec des personnages qui existent dans les deux mondes. Mais dans Fringe, en fait, les mondes parallèles sont à nouveau. C'est-à-dire qu'ils existent, ils sont donnés. Alors que, en fait, ce qui me paraît intéressant dans Man in the High Castle, c'est qu'on pourrait dire, peut-être, enfin, vous me direz si vous me suivez là-dessus, mais on pourrait dire que c'est l'événement uchronique qui permet, dans un premier temps, de construire deux mondes. Donc, le monde de l'Uchronie et le monde uchronique en abîme. Donc, le monde de l'Uchronie et, on regarde dans les films, notre propre monde. Donc, notre propre monde qui, du coup, devient une fiction dans la fiction, ce qui, bien sûr, engage à la réflexivité et à la réflexion sur l'image, son poids, son rôle et cette question de la vérité de l'image. Et ensuite, la série prend ce tournant science-fictionnel. Et d'une certaine façon, j'ai le sentiment, moi, que le monde uchronique et l'Uchronie cèdent le pas au monde parallèle, hein, qui en viennent à envahir, et en fait, à la fin, littéralement, hein, à envahir le monde uchronique de départ. Donc, Juliana, par exemple, déclare à la fin de la saison 4 qu'elle sent que quelque chose va se passer. Hein, donc là, on n'est plus dans l'image, on est vraiment dans le ressenti. Et Smith est très clairement, à la fin de la saison 4, hein, enfin, toute la deuxième partie de la saison 4, très affectée par le temps qu'il a passé avec la version alternative de son fils Thomas, hein, dans le monde parallèle. D'une certaine façon, la fin de la série a posé autant de questions et a déçu autant de monde que la fin du roman. Hein. Alors qu'en fait, hein, je pense que ce que montre la fin de la série, c'est que les mondes parallèles ont pris le dessus. Parce que vous vous souvenez que la résistance a repris le contrôle du portail. Hein. Mais finalement, ce n'est plus tellement la question du contrôle qui est en jeu ici. D'ailleurs, avant la toute fin de la série, on a déjà vu une séquence au cours de laquelle le portail semblait s'animer tout seul. Hein. Et la fin montre des gens donc, venus d'univers divers, on ne sait pas très bien d'où, hein, qui arrivent dans le monde de l'Uchronie et qui, en fait, en signent ainsi également la fin. Juste après la mort de John Smith, juste avant que Juliana rejoigne la résistance et Abenson dans le couloir du portail, elle voit à nouveau un symbole de I Ching à la toute fin de la saison 4. Et peut-être que l'idée de la fin de la série, c'est de dire justement que telle est la vérité et que peut-être justement la vérité qui est dite là, c'est qu'il n'y a pas de vérité, hein, et que le I Ching de ce point de vue-là réapparaîtrait à la fin de la saison pour dire que la série propose avant tout une réflexion sur la série comme machine à fiction, c'est-à-dire la série comme capable de produire une infinité de mondes parallèles qui donnent cette notion de multivers et qui donnent cette fin très ouverte également, hein, comme dans le roman, mais d'une autre manière, en signant la fin, je pense, de l'Uchronie qui était présente au départ dans la série.
Merci beaucoup, Hélène. C'est intéressant, cette idée de la dissolution de l'étanchéité progressive, la fin, la dissolution. Je pense que tu as raison que c'est au cœur même de la structure de la série. Je me demande si cette idée-là, justement, des personnages qui émergent à la fin de tous les autres mondes, c'est pas simplement, justement, l'aboutissement complet de cette dissolution-là. Si on peut voyager dans les mondes parallèles, c'est plus tellement des mondes parallèles d'une certaine façon, ça devient des lieux. Donc forcément, déjà, dès que la porosité émerge, dès que c'est plus tout à fait des mondes parallèles, je me demande si c'est pas une façon aussi de déconstruire une espèce d'absolutisme moral qui est intrinsèque forcément à un imaginaire fascisme, à un imaginaire de la guerre froide, qui était déjà au cœur du roman. Donc je pense que c'est comme la série utilise sa propre grammaire, alors que le roman utilisait le nihilisme d'une certaine façon, qui était intériorisé à tous les personnages. Mais là, on utilise justement la sérialité pour déconstruire ces absolutismes-là. Alors que jusque-là, la série, ben, ça dépend des personnages, mais au contraire, on voyait les personnages s'engluer d'une certaine façon dans les dogmes, dans les discours dominants. Donc, on voyait John Smith, il était plutôt arriviste que très convaincu par l'idéologie, mais on le voit au contraire s'engluer dans l'idéologie. Juliana, la même chose, elle n'était pas très convaincue par le concept même de résistance, mais on a l'impression qu'elle se radicalise à mesure que la série avance. Cette dissolution-là des frontières, on dirait à la fin, permet de déconstruire ça. Toutes les catégories, pas seulement la frontière entre les mondes, mais les frontières entre les blocs idéologiques, entre les personnages, ça les détruit, en fait. C'est ce qu'on voit avec John Smith, c'est-à-dire que c'est ce qu'il détruit de l'intérieur, c'est ce qui mène à son suicide, parce que ça n'a plus de sens. Tous ces absolus-là se détruisent les uns les autres quand les barrières tombent entre les mondes, justement.
L'image un peu symbolique de ça à la toute fin, c'est que le premier personnage dans ce flot de personnages qui arrivent, hein, donc d'autres mondes qui effectivement du coup ne sont plus que des lieux, hein, comme tu disais, le premier personnage à sortir du saisissement du moment de cette arrivée, c'est Abensen qui part vers justement, enfin à contre-courant de ce flot de personnes qui arrivent, et je pense que ça aussi c'est ce qui m'a fait apprécier la fin de la série aussi, parce que Abensen, c'est le personnage qui a été le plus en contact avec le plus de versions alternatives de la réalité, avec toute cette collection de films, hein, qu'il accumule au cours de la série.
Mais je pense que c'est des matrices qui ont été bien exploité par les concepteurs de la série, et je pense qu'ils ont pris le roman comme un artefact, et là encore un peu un truc un peu oulipien, c'est qu'ils ont pris le procédé et les complexités du roman et ils en ont fait un moteur de sérialité, moteur d'intrigue dans les intrigues, moteur de variation, de permutation, parce qu'il y a beaucoup de moments, surtout dans la première saison, où on pense qu'on est en train de rejoindre le roman, parce qu'il y a un peu des intrigues qui sont similaires, mais justement, elles sont en train de diverger. Et je pense que c'est un cas aussi très intéressant de double réception, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même réception si on a lu le livre ou pas. Si on a lu le livre, on s'attend à chaque fois à ce que l'adaptation rejoigne la diégèse du livre, et puis à chaque fois on diverge, et je pense que ça c'est un aspect intéressant.
Moi j'ai lu le livre après avoir vu la série.
Ouais. Bah, du coup ça est l'inverse, parce que toi c'est la divergence de la série, ouais, qui devient la divergence.
Ben, c'est voilà, que le livre devient un monde parallèle de la série. On a un peu cette impression là, mais on finit par lire le livre en cherchant les traces de la série, donc ouais, c'est assez intéressant. C'est assez cohérent aussi avec les deux œuvres, donc c'est pas si déstabilisant que ça de le lire dans cet ordre-là non plus. tu dis que ça diverge complètement, mais des fois, on progresse. Puis il y a des choses, par exemple, la mort de Joe Blake, elle est presque identique dans le roman et dans la série. Et puis ça surprend en fait, parce qu'on a tellement divergé depuis le début de l'histoire originale que ça surprend qu'on y revienne. Donc, ces moments-là où on y revient, c'est vrai qu'elles sont assez surprenantes.
Il y a même des clins d'œil, parce que Joe Blake, dans le roman, s'appelle Joe Chinadella. Puis, il me semble que dans la saison 3, Joe Blake, il est undercover, là, justement, puis il prend ce nom-là. Alors ça ne peut être rien de plus qu'un clin d'œil pour le lecteur du roman, là, parce que sinon, ça ne fait aucun sens dans l'univers de la série. Donc, c'est le genre de petit clin d'œil qui est fait, effectivement, que je pense que l'œuvre littéraire, elle coexiste en parallèle de la série. Là.
Je pense que c'est un cas très intéressant de comparaison entre l'adaptation et le roman, parce que je pense que même dans certaines trajectoires qui n'ont pas l'air d'être similaires, mais ça rejoint un peu, parce que même la fin que vous évoquiez pour Abensen, il y a un côté étrange aussi dans le roman où il quitte le haut château, il rejoint la vie, il s'en fait plus pour l'idée qu'il va être assassiné. Et il y a donc comme une sorte d'affranchissement de la peur et tout ça. Donc, quelque part, il y a des échos, il y a des résonances vraiment dans les deux. Donc, c'est sûr qu'ils se sont beaucoup amusés avec ça, j'ai l'impression.
Je pense que ça mène bien peut-être à l'intervention de Shannon, justement, qui va nous parler des relations entre l'adaptation et par rapport au film et puis au roman Uchronique dans l'Uchronie. Donc, Shannon, je te laisserai la parole.
Merci beaucoup. Quand Amazon Prime a choisi d'adapter Le Maître du Haut-Château en série télévisée, un des choix d'adaptation les plus intéressants a été de transformer le roman diégétique de l'auteur éponyme, The Grasshopper Lies Heavy, en un film. Donc, son pilote qui montre des images d'actualité d'une victoire alliée dans ce qui semble être des images réelles tournées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce film et d'autres qui paraissent au cours de la fiction offrent une matière à réflexion pour le spectateur, on l'a dit. Donc, dans cette obsession du visuel, la série peut être lue comme une allégorie des possibilités, des limites et des dangers de la représentation audiovisuelle en général et de l'adaptation télévisuelle. On souligne justement le pouvoir de la télévision et de l'adaptation pour éduquer, critiquer et motiver. Tout comme le roman Sauterelle offre finalement une réflexion sur les visées de la littérature qui se révèle, on dit, fondamentalement vraie, même si c'est encore et toujours de la fiction. La version filmique proposée par la série offre une lecture à la fois de l'audiovisuel et sa représentation du réel, entre guillemets, mais aussi de l'adaptation et son rapport au texte source. Donc la transformation de Grasshopper ou Sauterelle en un film d'actualité, un newsreel, plutôt qu'en film de fiction, est particulièrement intéressante étant donné le statut fictionnel de Grasshopper dans le roman. Hein, donc la série, le pendant filmique de Grasshopper, est au contraire traité, on l'a dit, comme une incarnation des réalités, enfin de la réalité des faits, une simple captation de la réalité à transmettre aux spectateurs, sans même la voix off explicative qui accompagne généralement les films d'actualité, les newsreels. Ainsi, la série s'attaque immédiatement à la soi-disant vérité des images et la question des histoires alternatives, qui, on a dit dans le roman, est un rapport entre deux réalités alternatives, aucune des deux n'étant la nôtre. Donc, ce rapport, cette question d'histoires alternatives semble d'abord être simplifiée. Il s'agit d'un simple contraste entre notre réalité et ce qui aurait pu être, ce qui est réel, donc notre monde, est montré comme tel par le pouvoir du film et sa réalité est renforcée par l'esthétique du documentaire d'actualité. Donc, une grande partie de l'impact de la série réside dans le traitement narratif de ces films diégétiques et plus particulièrement dans leur impact sur le parcours de notre protagoniste, donc Juliana Crane, qui accepte immédiatement Grasshopper et sa représentation d'une victoire alliée comme une vérité absolue. Donc cette croyance dans le film comme simple reproduction mécanique de la réalité alimente une grande partie de l'action de la série. Cependant, la série a été créée dans un monde de post-vérité, on a dit, hein, un monde trumpien, Ou non, juste avant Trump, en fait. Et la croyance initiale de Juliana en cette source devient plus complexe lorsqu'il devient évident que dans cette version de Maître du Château, il ne s'agit pas d'une source unique. Hein, donc, l'aura benjaminienne de chacun de ces films d'actualité, on apprend, n'est pas reproduite mécaniquement. Au contraire, chacun est unique, une incarnation diégétique et filmique de la différence de Derrida, où les personnages examinent plusieurs films réalisés à partir du même événement afin de comprendre comment ils pourraient se rapporter à leur propre réalité. Donc, en fin de compte, l'authenticité ou la réalité entre guillemets, de ces films reste incontestée dans le récit de la série. Chacun de ces films qui montrent une histoire alternative peuvent être momentanément remis en question par certains personnages, mais la série suggère qu'ils sont tous néanmoins valables, devenus des preuves tangibles, on disait, d'un multivers, un ensemble de possibilités qui servent de véritables armes de guerre, puisque les chefs de la résistance et Hitler lui-même se plongent dans ces films afin de glaner des indices sur leur monde à eux et de les utiliser à leur avantage. Donc si la mise en abîme romanesque de Dick nous parle des possibilités et des limites de la littérature, il me semble que ces films sont à considérer d'abord comme des représentations du pouvoir audiovisuel de faire croire à sa réalité. Extra-diégétiquement, le spectateur du XXIe siècle sait bien sûr qu'au moins certains extraits de ces films sont falsifiés, où les comédiens côtoient Winston Churchill, qui font partie de la fiction que nous regardons. Mais on peut avoir du mal à distinguer la réalité de la fiction. Donc les films deviennent une réflexion sur le rapport entre la représentation visuelle et la propagande. Hein. Donc il est significatif, et Hélène a déjà donné cet exemple, qu'un film d'actualité alternatif est faussement utilisé comme preuve de l'acquisition de la bombe atomique par le Japon afin d'éviter une autre guerre mondiale. Toutefois, et contrairement au roman de Dick, cette série revendique son statut d'adaptation, insistant sur son héritage filmique avec de nombreuses références au cinéma. Donc, on peut penser par exemple à tout ce qui se passe à Cannon City qui s'apparente au western. Par exemple, donc c'est une association renforcée par le rapport à John Wayne et la chevauchée fantastique, donc Stagecoach, qui est une adaptation d'une nouvelle de Ernie Haycox, censée elle-même être une réinterprétation de Boule de Suif de Maupassant. Donc, je fais une petite parenthèse parce que je n'arrive pas à m'empêcher pour autant. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'idée du côte Est et côte Ouest et les États des Unis, c'est très intéressant vis-à-vis de cette idée du western, hein, et tout ce qui se passe dans le western, puisque finalement le genre western, au moins dans un premier temps, c'était vraiment l'idée qu'après la guerre de sécession, on peut trouver un terrain d'entente entre les deux. Donc, du coup, voilà, cette idée de l'état tampon qui est canon, hein, je pense que là, pour le coup, c'est intéressant qu'on a choisi de montrer le canon western, hein, le canon filmique par le biais de Cannon City. Donc, du coup, le poids de la sauterelle et les autres films représentent aussi une réflexion autour de l'adaptation, on va en reparler sans doute, et comment ce processus peut offrir une nouvelle version, une interprétation inattendue d'un monde qu'on pense bien connaître. De fait, la multiplicité des bobines suggère que loin de devoir suivre le récit d'origine, que ce soit le monde qu'on rencontre au début de la série ou alors un monde projeté sur un écran, les possibilités pour représenter cet univers sont sans fin et sont apparemment toutes dignes de considération. Donc, chaque bobine représente un nombre infini d'étapes choisies pour différer du texte source, qui peuvent ensuite être interprétées à la fois pour mettre en évidence les conséquences de leurs différents choix, mais aussi pour se concentrer sur les ressemblances centrales. Donc, notre protagoniste se distingue car l'homme du château, hein, donc Hawthorne Avenson, lui explique qu'elle, elle reste la même dans toutes les versions du film, devenant par conséquent ce que Ian MacDonald appelle « the screen idea », Hein, donc, une idée clé du texte source qui doit paraître dans toute adaptation ou réinterprétation du récit. Examiner l'utilisation du film par la série permet de comprendre les possibilités et les limites de l'adaptation sérielle, qu'elle soit la même d'une version à l'autre, comme Juliana, ou au contraire, adaptée au contexte dans lequel elle est placée. Donc, la multiplicité des sources, les nombreux films d'actualité qui montrent les personnages agissant de différentes manières dans différents contextes, a une résonance particulière pour une adaptation de Philip K. Dick. Donc, on peut dire que les adaptations de Dick n'ont pas nécessairement été très fidèles, étant donné que ici, le maître du château, il s'agit de la première adaptation sérialisée de son œuvre, et que les adaptations télévisées de longue durée ont tendance à utiliser une source comme une sorte d'incident déclencheur avant de raconter sa propre histoire dans un univers similaire. La multiplicité de ces films originaux, hein, ces films d'actualité, pourrait être considérée comme une affirmation de l'adaptateur, et a fortiori l'adaptateur de Dick, que les voies vers la soi-disant vérité sont nombreuses et également valables. À l'instar de la relation complexe entre le film et la réalité diégétique, la croyance initiale en un auteur simple, l'homme du haut château, devient également fragile au fil de la série. Donc, on a dit Hawthorne Abendson a créé un film unique et imparfait qui a attiré à son tour d'autres films réels, soi-disant réels, provenant d'autres réalités. Donc, Abendson les regarde puis diffuse les informations qu'il en tire. Il n'est donc pas cinéaste ou romancier, mais critique de cinéma. Donc, de manière très flatteuse pour ceux qui étudient le cinéma, le critique de cinéma est crucial. C'est un lecteur idéal, mais au fur et à mesure que la série se poursuit, l'auteur des films d'actualité reste obscur et n'est certainement pas un cinéaste individuel et anonyme issu de réalités multiples. Là encore, cette représentation est facilement transposable à la nature de la télévision américaine et son écriture à plusieurs mains, ainsi qu'à de nombreuses adaptations de Philip K. Dick. Car après tout, qui a écrit Blade Runner? C'est difficile de dire un seul et unique auteur. Mais surtout, elle semble particulièrement pertinente pour The Man in the High Castle elle-même, qui a perdu son créateur et showrunner Frank Spotnitz, après sa première saison, et s'est tout simplement passé de showrunner dans la saison 2, là où justement Abendson révèle ses limites. En fin de compte, en présentant le premier film d'Abendson comme imparfait et les multiples films de diverses réalités qui ont suivi comme tout aussi valables, bien qu'ils ne soient pas nécessairement aussi pertinents pour la vie des personnages, la série fait du genre SF de l'Uchronie une affirmation du pouvoir et des dangers de l'adaptation. Chacun de ces nouveaux récits est un remaniement des récits initiaux sans hiérarchie. Chacune est imparfaite, incomplète, comme dans le roman de Philip K. Dick, hein, dont la fin ouverte, on a dit, ne satisfaisait pas tout le monde, y compris parfois son auteur, et bien sûr comme la série qui n'a pas satisfait à tout le monde non plus. Donc, Juliana Crane nous rappelle à plusieurs reprises la croyance japonaise en la valeur de l'imperfection, hein, du brisé réparé. La série suggère que chaque histoire proposée par les différents médias, qu'il s'agisse de textes, de films ou de séries, est tout aussi imparfaite, mais toute prometteuse. La mise en abîme du roman dans le roman et du film dans la série offre des différences esthétiques et narratives, mais n'émet pas de jugement qui privilégie l'un ou l'autre. S'il y a plusieurs versions de personnes dans différentes réalités, il y a différentes versions du récit. Bien que la série maintienne la prémisse initiale du roman dès le départ, la prémisse essentielle du roman, dès le départ, avec les décors du Grand Reich sur la côte est absente du roman l'arrivée, l'invention de John Smith, notre monsieur tout le monde bien nommé, qui nous fournit notre entrée dans la pensée nazie. Et de plus en plus, au fur et à mesure que la série avance, les différences qui séparent le roman de la série s'accumulent, mais semble moins importante que les informations glanées dans ces différences afin d'améliorer la version suivante. Donc, c'est une recherche constante de nouveaux horizons et de nouvelles adaptations.
Merci beaucoup, Shannon. J'avais trouvé ça très intéressant, l'idée que le roman était devenu un film, mais je n'avais pas nécessairement remarqué qu'on avait passé d'un régime de fiction à un régime de réalité. Mais par contre, c'est des newsreels. Dans la forme, c'est clairement des newsreels. Ça, on a vraiment cette impression-là. Mais par contre, dans l'intention de production de ces films-là, est-ce qu'on est vraiment dans le newsreel? C'était un peu ça ma question au fond, parce que est-ce que c'est... On n'a pas l'impression que c'est des journalistes qui produisent ces films-là, autrement dit, avec pour but de donner de l'information sur un événement historique à leurs concitoyens. On a l'impression, au contraire, qu'on est plutôt dans la production du film de résistance, documenter la résistance par eux-mêmes plutôt que de journalistes qui seraient supposément objectifs ou en tout cas qui auraient dans une logique journalistique. Donc, je me demandais si pour toi, on voyait des traces de logique journalistique ou si ça jouait ou pas.
Comme je disais, hein, il n'y a pas de voix off, effectivement. Donc, on peut dire que la visée journalistique est aussi pour contextualiser hein, les images qu'on voit. Et du coup, il n'y a pas cette mise en contexte, c'est sûr. Mais enfin, je pense que ça joue un peu avec les frontières entre l'idée de documenter une réalité historique et de le présenter à un public, puisque finalement, surtout le premier film qu'on voit dès le pilote, c'est très clairement quelque chose qui est censé ressembler aux films qui ont été faits soit par des journalistes, soit par des amateurs qui avaient voilà, des caméras à la main, mais qui montraient un moment historique, quoi. Et de ce point de vue-là, la contextualisation, encore une fois, hein, par les médias, par les journalistes, prend peut-être tout son poids, hein, là. Il me semble que dans la visée, justement, de documenter une réalité voilà, historique, qui a un côté newsreel, même si on n'y est pas tout à fait hein, au niveau générique.
Alors, c'est plus que ça varie au fond, parce que c'est vrai que celui-là, il est spectaculaire à quel point on est dans le newsreel, parce que même que ça oriente complètement la vision, la façon dont Juliana va le lire, ben, va le voir, parce que clairement, elle va le comparer à des... elle ne le dit pas, mais on le voit dans son visage qu'elle compare avec des objets journalistiques qu'elle a pu voir elle-même. Mais c'est vrai qu'après, la multiplicité des films fait que ça devient un peu plus flou, mais c'est intéressant parce que le fait que ce premier film-là nous soit montré vraiment comme quelque chose de journalistique, ça donne de la crédibilité aux films subséquents, même s'ils n'ont plus nécessairement cette patine-là. Parce que souvent, on a des extraits aussi qui sont plus banals ou qui sont pas nécessairement dans le grand événement historique, mais dans... par exemple, quand on voit dans les couloirs où justement Joe Blake sauf Juliana, mais exécute je sais quel autre personnage. Mais on voit qu'on n'est plus nécessairement dans le grand événement historique, mais on est dans un autre type d'événement.
Ben, il y a beaucoup de home movies, là. Des films super vite, là, comme on en fait aujourd'hui avec nos téléphones, mais qu'à l'époque, on le faisait avec une caméra. Je veux dire, c'est trivial, c'est familial, mais c'est quand même réel. Dans le fond, ça traduit une autre forme d'indexicalité.
Oui, au fond, ça traduit vraiment ce que les médias aujourd'hui traitent comme aussi l'image journalistique, parce que c'est vrai que même dans les téléjournaux, maintenant, on va avoir des images filmées par des gens avec leur téléphone. Tu disais, dans le roman, c'est un roman, et dans la série, c'est un film. Je voyais là un décalage peut-être, mais au fond, en y réfléchissant, c'est pas un film, c'est des films, et donc c'est une série. Donc, de toute façon, c'est une série dans la série aussi, on pourrait dire.
Je pense que, voilà, effectivement, quand on parle d'une série, nécessairement, on parle d'un récit en fragments qui est caractérisé finalement par ces fragments. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un côté mise en abîme qui est encore plus fort avec la multiplicité des récits filmiques, quoi.
Tu parlais beaucoup du western comme d'un genre qui était cité beaucoup dans la série. Il y a le film noir aussi énormément, donc il y a une hybridité des genres qui est vraiment là aussi.
Exactement. Qui est parfait pour la Californie, justement.
Ben oui, San Francisco, oui, absolument.
C'est vraiment intéressant parce que oui, on est en plein territoire du film noir dès le pilote là, avec Trudy. Que je me suis proposé moi aujourd'hui, c'est ça, ça vient d'une communication que j'ai donnée sur la série. Passant par la question des films là, qui remplacent la mise en abîme littéraire, ben, je me dirige aussi éventuellement vers la question du fantasme et de la nostalgie. J'ouvrais cette communication-là avec un épigraphe là, d'un article qui a été écrit par Cassie Carter sur la métacolonisation là, dans la série et surtout dans le roman. Là. Puis elle dit, là, évidemment, je l'ai traduit en français, là, mais elle dit que l'Amérique de Man in the High Castle se trouve colonisée sans le savoir par les notions romantiques qu'elle entretient à son sujet, reproduisant aveuglément ses propres attitudes colonialistes et pillant sa propre histoire et sa propre culture. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était justement partir de la question de l'adaptation télévisuelle. Cette adaptation, elle s'inscrit évidemment, je crois, là, de toute évidence dans le sillage d'une télévision contemporaine qui veut nous provoquer, qui veut nous amener, nous, les spectateurs, à questionner notre contexte sociopolitique actuel. On a une série qui veut puiser au cœur des inquiétudes croissantes dans les années 2010 face à l'autoritarisme, à la montée de la droite dans les sociétés occidentales post-2001. Mais la série, elle propose aussi une réappropriation, je crois, importante et une réflexion marquée de contemporanéité face à l'ouvrage adapté. Peut-être juste faire une petite parenthèse sur la campagne de pub qui avait été faite dans le métro new-yorkais avant le lancement de la première saison, parce que je pense que ça parle très fort. T'sais, on avait décoré une rame de métro new-yorkaise d'un côté avec des symboles renvoyant au Troisième Reich et de l'autre côté au Japon impérial, et ça avait vraiment choqué. Puis je trouve que la pub a peut-être choqué plus que la série aurait dû, mais la série aurait dû choquer autant, parce que la série fait pendant 4 saisons ce qu'on a fait, tu sais, avec un coup d'éclat avec cette pub-là. Donc, bref, ce que je vais faire aujourd'hui, donc, c'est revenir sur certains des éléments que je trouve importants dans cette adaptation-là. Donc, la série télé d'Amazon, bien, elle entretient des liens vraiment étroits avec le cinéma, avec la série, comme forme et comme discours. Et je trouve que ça se manifeste de façon vraiment limpide dans la réappropriation les plus importantes dans l'adaptation, c'est-à-dire justement ce changement de la forme, dans la forme même du récit mis en abîme. Parce que bon, on en a parlé dans le roman de Dick, bien, on a cette fiction littéraire, The Grasshopper Lies Heavy, qui jouit quand même d'une très grande popularité. On en a moins parlé de ce fait-là, mais tu sais, tout le monde dans le roman semble être fasciné. Il y a un grand lectorat pour ce roman qui raconte, on le sait, une réalité méta-uchronique, puisque effectivement, c'est comme finalement, c'est notre propre chronologie qui est projetée en tant que méta-uchronique. Donc, on a bon, les Alliés qui sortent victorieux de ce conflit mondial et qui fascinent les lecteurs de cette réalité uchronique-là où effectivement, c'est l'Axe qui a gagné. Mais la série télé nous place quand même dans la même diégèse. Le roman date de 62 et la série nous plonge dans une esthétique des années 60. Et ça, je trouve que ça donne à la série un côté quand même rétro-futuriste, puisque là, on est dans les années 60. Les Allemands sont les instigateurs de plusieurs innovations qu'on sait avoir existé autrement, sous des formes différentes, que ce soit le Concorde, la facture visuelle, la direction artistique, la mise en scène, les décors. Tout est fait pour situer l'action dans le début des années 60, mais avec ce côté très rétro-futuriste, puisque nous, on le visionne à partir des années 2010. Mais par ailleurs, dans une des divergences plus importantes entre le roman et la série, bien, c'est le médium qui permet de percevoir cette autre version de l'histoire. Et ça change le statut même du personnage éponyme, donc le fameux Man in the High Castle. Il n'est plus l'auteur d'un roman, il est un collectionneur de films. Shannon, toi, tu parlais d'un critique de films, je trouvais que c'était un point super intéressant. Il agit dans tous les cas comme une figure centrale de la résistance face au pouvoir d'occupation, sauf qu'il fait ça non plus par un acte de création littéraire, mais par cet acte d'agrégation et à la limite de critique cinématographique. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a cette divergence, bien, elle est majeure. On passe du littéraire au filmique et ça fait passer le statut même de ce récit mis en abîme du statut de fiction au statut beaucoup plus complexe de ce que Barthes qualifie dans La Chambre claire de « ça a été ». Évidemment, il parle de la photo dans La Chambre claire, Il situe le noème de la photographie autour du fait que ça a été, c'est-à-dire que la photo transmet la certitude de l'existence d'un objet ou d'une personne devant la caméra. Évidemment, là, je pense que le rétrofuturisme de la série est important parce que le rapport entre la photo et ce qui a été est beaucoup plus ambigu aujourd'hui dans notre contexte numérique où une image ne peut plus vraiment prétendre à une quelconque authenticité, du moins nous en tant que récepteur de ces images-là, on est à même et en droit de questionner très fondamentalement la légitimité des images qu'on reçoit. Sauf qu'évidemment, dans les années 60, oui, c'est pas le cas. Alors, dans la réalité diégétique de la série, l'image cinématographique, un peu comme celle de la photo, proclame nécessairement que ce qu'elle représente a été. Alors, les films que collectionne Abinson, bien, ils se présentent, on l'a dit, comme des newsreels et adoptent par conséquent une facture quasi-documentaire, on en a parlé aussi, ces films présentent leur réalité méta-uchronique comme des faits ayant été filmés. C'est tout aussi vrai des newsreels que des home movies. Donc, on peut considérer que le passage du roman mis en abîme à cette série de films implique un changement majeur dans le déploiement de la série et surtout bon, son rapport imaginaire à la réalité dystopique qui est mis de l'avant. Alors, plutôt que d'être fasciné par la fiction d'une réalité parallèle, comme c'est le cas des personnages du roman, bien, les personnages de la série sont confrontés à des films qui, ultimement, les confrontent à l'idée que les images qu'ils visionnent, bien, ce sont des images qui ont une historicité, ils ont une providence, un rapport avec une réalité quelconque. Et ces images transmettent un témoignage, non pas de ce qui aurait pu être, mais de ce qui a été, là, pour reprendre Barthes, dans une temporalité donnée, dans un monde donné. Et c'est d'ailleurs ce que la série elle-même pourrait être vu comme tentant de faire, c'est-à-dire qu'elle nous confronte à ce qui aurait pu être, évidemment, si Lax avait remporté la guerre, ou dans une certaine mesure, à ce qui pourrait être, si on considère l'importance de ce discours sur l'autoritarisme, sur le fascisme et sur l'aisance avec lesquelles les Américains s'y adaptent. Le rapport au cinéma dans la série, bien, il se déploie vraiment de façon flagrante dans le générique même. Le générique démarre avec le son d'un projecteur qui démarre. Et les images qui se succèdent dans le générique, bien, ce sont des images qui ont un lien vraiment fort avec le cinéma, dans la mesure où ce sont des images qui mettent en scène des projections de lumière. On projette des images sur des lieux, sur le Mont Rushmore, sur la Statue de la Liberté. Et parfois même, on projette des images d'archives ou des images qu'on suppose être des images d'archives dans la réalité de la série. On peut voir des soldats qui sont parachutés, on les voit projetés sur le Mont Rushmore, on voit un escadron japonais projeté sur le Golden Gate Bridge, on voit ces images de la Statue de la Liberté qui semble avoir été retirée de son emplacement pour être enfermée, puisqu'il y a un mur de béton derrière elle. Ces images de la Statue de la Liberté sont intéressantes parce qu'elles sont projetées comme des images filmiques et on a même un gros plan sur le visage de la statue qui donne l'impression qu'elle est troublée par les images qu'elle visionne. T'sais, on a comme une espèce d'effet coulé de cheveux qui se décline dans le montage même de la série et de l'apparition de la Statue de la Liberté et ça permet d'inférer une certaine émotion ressentie évidemment parce qu'on le sait tous, un objet inanimé. Alors, ultimement, bien, ce générique, il plonge la série dans un rapport important avec le cinéma et surtout avec le rapport que le cinéma entretient avec l'imaginaire, au sens psychanalytique du terme, donc ce registre de l'existence humaine qui est déterminé par notre rapport et notre relation aux images, à ce que les images renferment comme idéaux, mais aussi et surtout comme leur. Alors, ce rapport aux images, bien, il permet, lui, d'instaurer le rapport au fantasme et finalement la dimension fantasmatique de l'américanité que la série tente de nous amener à questionner, parce que je pense que c'est ce qu'elle fait, dans une visée qui est similaire à celle du roman, mais qui a cette spécificité qui met de l'avant la force des médias visuels. Alors, je fais une petite parenthèse justement sur le fantasme culturel, parce que si on considère l'importance de l'antisémitisme au sein de l'idéologie nazie, évidemment, sa présence de cet antisémitisme-là dans la série, qui joue un rôle très important. Moi, je pense qu'on peut considérer ici la question qui est évoquée par Slavoj Žižek là, du fantasme du juif pour l'antisémite. C'est un fantasme que Žižek analyse régulièrement. C'est un exemple qu'il donne souvent pour expliquer le fonctionnement idéologique fondamental du fantasme culturel. Parce que dans le fond, au plan idéologique, bien, le concept du fantasme social ou le fantasme culturel, bien, ça implique l'idée d'une jouissance pré-idéologique, donc quelque chose qui existait avant l'arrivée de l'idéologie, au sein de laquelle bien, les divers antagonismes sociaux étaient absents. Et dès son premier livre en anglais, le Zizek se tourne, évidemment, je parle de The Sublime Object of Ideology, Zizek se tourne vers cet exemple habituel pour lui de l'antisémitisme. Et il précise, là, je le paraphrase, là, il précise que la société, elle n'est pas privée de l'atteinte de sa pleine identité ou de sa pleine émancipation à raison des Juifs, mais plutôt en raison de sa propre nature antagoniste, par ses propres blocages immanents. Et la société en vient à projeter cette négativité interne sur la figure d'un autre, avec un A majuscule, évidemment ici, cet autre étant le Juif. Alors, le fantasme devient alors nécessaire pour supporter cette réalité. On a besoin de cette figure, cette altérité pour cristalliser tous les problèmes autour d'un agent externe dans un esprit qui est typiquement très manichéen. Et la série, bien, elle nous plonge dans ce manichéisme-là. Elle nous plonge dans cette Amérique fasciste qui repose justement sur une présence accrue de fantasmes qui cache une réalité beaucoup plus troublante et beaucoup plus complexe. Mais par contre, le manichéisme au centre de la série fait aussi écho aux montées sporadiques de racisme et de xénophobie qui ponctuent l'histoire de l'américanité. Et c'est un contexte qui est, bien entendu, pas étranger au contexte contemporain là, au sein de laquelle la série émerge. T'sais, dès les premiers épisodes de la première saison, on peut constater des phénomènes qui sont frappants et qui traduisent l'adaptation surprenante des Américains à l'autoritarisme auquel ils sont désormais soumis. D'ailleurs, je cite un article anglais que je traduis là, de Diane Dennis. Il compare la série avec le contexte américain actuel et il dit, je paraphrase, « Pour les Américains, il y a un choc de la reconnaissance, à la fois au vu de l'instauration soudaine d'un État totalitaire et du rôle humain dans la facilitation, la résistance et la transformation d'un tel État. La résonance contemporaine frappante de The Man in the High Castle provient du manichéisme politique de la décennie en cours. Le succès de Trump ainsi que de ses alliés de la droite alternative dans leur volonté de refaçonner la société américaine trouve un écho dans l'Amérique dystopique de la série. Et cette rhétorique de l'aile politique de cette droite alternative et la rhétorique dans la série, bien, on se trouve à pouvoir faire un petit parenthèse là, avec le slogan de la campagne de Trump, qui est un slogan, bien évidemment, je parle de sa campagne 2016, là, c'est un slogan qui est particulièrement fantasmatique et évidemment extrêmement fort en relan nostalgique. Là. Je parle évidemment du fameux « Make America Great Again », parce que dans le « Make America Great Again », il y a l'idée d'un avant, l'idée d'un moment fantasmatique qui se construit nécessairement en rétrospective, et il y a conséquemment quelque chose de nostalgique dans cette démarche. Dans The Man in the High Castle, évidemment, on a cette démarche nostalgique, puisque le propre de l'émission, c'est que le passé représenté n'a effectivement pas eu lieu. La série montre une déclinaison différente de ce passé idéalisé, tout en prenant soin de la dépeindre avec la même mise en scène quasi idyllique. Et ça, ça se cristallise dans la représentation de la vie domestique de l'Obergruppe und Führer John Smith, puisque la famille Smith, dans le fond, elle représente en quelque sorte la quintessence de l'américanité de l'après-deuxième guerre mondiale, donc l'américanité de la mid-century. Et elle incarne aussi la normalisation du totalitarisme présent dans la série, qui est campée justement de cette américanité du milieu du 20e siècle. Alors la série, tout comme le roman, est particulièrement provocante parce qu'elle montre les Américains qui s'adaptent au fascisme avec une aisance alarmante. Les liens entre les colonisateurs japonais et les colonisés américains dans le roman, mais aussi dans la série, c'est ce qui représente cette idée de la métacolonisation dans le roman. On y retrouve en effet, je cite cet article que j'ai cité en début de parcours, on retrouve des colons japonais qui parlent anglais, qui fétichisent des objets historiques américains et qui ont des prénoms comme Paul et Betty. Alors Dick offre avec cette image, mais aussi Amazon avec leur adaptation, offre l'image d'un territoire qui est colonisé par des colonisés et où les colons japonais sont des réflexions des idéaux et des valeurs occidentales qui sont inculquées par justement le colonialisme. L'occupation japonaise produit des résultats qui sont historiquement associés à la colonisation occidentale des pays du tiers-monde et la côte ouest occupée représente une Amérique qui est occupée et opprimée par une simulation d'elle-même. Dans le roman, comme dans la série d'ailleurs, on retrouve sur la côte ouest un important marché d'artefacts contrefaits qui livre un discours, je trouve, très intéressant sur l'historicité, sur cette aura là, de Benjamin. Pour les Japonais, les objets historiques américains sont l'emblème des vérités accumulées de l'Amérique, puisqu'ils narrent ce que l'Amérique se raconte d'elle-même. Sauf que comme Cassie Carter, dans cet article que je cite depuis quelques reprises, comme Carter le précise bien, quand l'Amérique raconte son histoire, elle est romantique et courageuse, elle n'a jamais de sang sur les mains. The Man in the High Castle, tout comme le roman dont il est l'adaptation, nous plonge dans un certain envers de ce fantasme de l'américanité, parce que dans les faits, l'Amérique nippone, l'Amérique nazie, ne diffère pas tant que ça de l'Amérique telle que nous la connaissons. Le roman nous demande de considérer les réalités troublantes qui se tinrent sous ces visions glorieuses que nous entretenons de l'Amérique. Et je crois ici que le message de Dick est clair. Il nous importe de faire face aux aspects impérialistes et fascistes qui sous-tendent l'Amérique. Je pense que c'est peut-être un message un peu facile. Dans le fond, on pourrait dire que The Man in the High Castle poursuit à plusieurs égards la mise en garde qui est effectuée. Là, je parle de la série là, qui poursuit à plusieurs égards cette mise en garde peut-être un peu générale là, que Philip K. Dick effectue. Mais on profite pleinement du déploiement imaginaire que permet le médium télévisuel ou le médium audiovisuel contemporain. Et je pense qu'on peut voir là-dedans, je termine là-dessus, d'un rapport au fantasme de l'américanité. Je l'ai juste un peu effleuré ici, mais je pense que ça s'inscrit résolument dans l'air du temps. Donc, c'était un peu le parcours très sinueux que je proposais. Voilà.
Merci beaucoup, Louis-Paul. Cette trilogie-là entre l'artefact authentique dans le roman, la copie, le faux, puis le bijou original, là, cette espèce de, qui est pour moi au cœur du roman, là, puis c'est ce qui permet de comprendre le roman dans son ensemble, de comprendre cette trilogie-là d'objets, parce que l'artefact avec son historicité, c'est l'histoire originale, c'est l'idée de l'histoire avec un grand H qu'on idéalise, qu'on survalorise. La croupie, c'est le double chronique. Le bijou, c'est la fiction. Mais c'est vrai que c'est intéressant comment ça se rejoue dans la série, que l'authenticité devient celle des films. Donc, c'est vraiment intéressant comment ça se déplace de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'il joue moins avec ce trio-là dans la série. C'est fait de manière très, très différente. Par rapport au manichéisme, je le vois plus dans la série, dans le roman. Je me demande à quel point si on peut parler de manichéisme, parce que j'ai l'impression que dans le roman, le racisme, il est partout, en fait. C'est pas les bons contre les méchants, les racistes contre les non-racistes. C'est que Dick met énormément d'énergie à nous montrer à quel point le racisme est internalisé chez tout le monde, de toutes les façons possibles. Le roman ne parle que de racisme, au fond, sur presque toutes les pages. On a toujours construction vraiment très, très problématique de l'autre, mais aussi de soi-même, donc qui est très, très internalisé. Donc, on voit Frank Fink, justement, qui est antisémite lui-même, donc il pense qu'il ne peut pas créer parce qu'il a internalisé le discours antisémite. Mais c'est vrai que dans la série, ça se joue de manière complètement différente, et je pense que ça montre beaucoup aussi les différences sur le discours du racisme aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la série, ce qui est intéressant, qui a été fait de manière maladroite, à mon avis, parce que beaucoup trop sur le tard, puis de manière beaucoup trop plaquée, mais en soi est intéressant, c'est l'introduction des Black Panthers dans la dernière saison, où là, on a vraiment une nouvelle forme de résistance, où si ça avait été fait de manière plus organique dès le début, ça aurait sans doute été plus intéressant.
La série propose un exemple vraiment intéressant d'un exercice d'adaptation dans ce que ça devrait être. Les adaptations qui sont des pâles copies de l'œuvre source, je pense que ça passe complètement à côté de ce que peut faire un médium comme la série télé ou le cinéma. Tu sais, quand on veut en faire une pâle copie de la littérature, ça ne marche jamais. Alors, je pense qu'une adaptation réussie passe par une réappropriation. Par contre, la dynamique de la production d'une série télé fait qu'on scénarise toujours pas beaucoup en amont de ce qu'on est en train de produire. Si les quatre saisons avaient été pensées comme un tout dès le départ, peut-être qu'on ça aurait été plus organique, justement, et probablement qu'on aurait pu voir l'apparition de ces groupes qui ont existé plus tôt et de façon plus... j'ai juste le mot anglais, intricate. Ce serait mieux ficelé dans l'arc narratif global, je pense.
Il y a l'aspect de la contre-culture dans le... Et en fait, 1962, c'est une année aussi importante parce que c'est important pour les droits civils et c'est important pour l'émergence peu à peu de cette contre-culture qui va devenir très importante en Californie, dans le milieu de la science-fiction, enfin autour de Dick, etc., etc., et qui se voit sur le modèle de la résistance. C'est-à-dire que là, la résistance qui est représentée, c'est une résistance à la fois avec les parallèles historiques des différentes résistances de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sur le fait que la contre-culture émergente, elle va se vivre sur ce modèle-là. Et notamment dans la mutation des stratégies, etc., etc., des droits civils vers quelque chose de beaucoup plus antagoniste, etc., comme seront les Black Panthers par la suite. Donc, je pense que c'est encore une fois quelque chose d'intéressant que la série reprend d'une certaine manière, parce qu'à ce moment-là, c'est le début. C'est pas encore en 1962, c'est pas la contre-culture telle qu'on va la connaître rétrospectivement, plus vers la fin des années 60, même début des années 70. Donc, c'est aussi un aspect intéressant. Quand je disais America avec un K, ce sera justement un des vecteurs de la critique des Black Panthers à l'Amérique, en renvoyant à l'idée que l'Amérique pratique un racisme systémique, etc., etc., et qu'il faut littéralement prendre les armes. Donc, je pense que toujours un peu avec cette idée qu'en 62, cette idée d'une Amérique qui pourrait redevenir fasciste ou qui aurait pu devenir fasciste, etc., etc., elle est très présente. Et effectivement, c'est intéressant que ça revienne à la fin du mandat d'Obama et que ça accompagne toute la question du trumpisme, de cette sorte de guerre civile qui n'est pas finie à ce qu'on voit aux États-Unis.
Oui, ben, à l'époque de Dick, on est encore beaucoup dans l'imaginaire de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a repris dans la série d'ailleurs énormément. Donc, on oppose comme les deux formes de résistance, qui est la forme justement guérilla, avec les systèmes d'informations qui circulent, donc vraiment plus dans une logique de résistance française en territoire occupé, avec des hiérarchies très, très structurées, des actions souvent discutables qui peuvent être remises en cause par certaines personnes, mais une opacité très, très grande, alors qu'on a justement ces Black Panthers-là qui apparaissent avec un groupe très, très serré, très, très fusionnel, dans une logique beaucoup plus d'armée, donc qui s'organisent et puis qui croient tous en la même chose. Donc, ils sont beaucoup plus dans la transparence et beaucoup moins dans l'opacité. Mais ça, effectivement, c'est un trait d'époque. Puis ça montre bien que le roman puis la série se déplacent entre deux époques. La sérialité, en fait, de la série nous permet d'approfondir beaucoup plus que dans le roman ces aspects-là de la résistance et de la collaboration en suivant des personnages puis en les forçant à vivre les conséquences de leurs choix moraux problématiques. Ce que le roman ou les romans en général ne font pas de ce genre-là. Donc, on les voit s'engager dans des groupes de résistance, regretter les actions qu'ils font, donc changer de perspective, changer de façon de le faire. Donc, Juliana en particulier et Frank, on les voit, c'est le parcours des deux dans la résistance que je trouve particulièrement intéressant parce qu'ils nous montrent vraiment toutes les nuances de c'est quoi la résistance dans tous ses aspects positifs et négatifs. Donc, ce n'est pas du tout manichéen dans la façon de le représenter. Ce n'est pas du tout de l'héroïsme. Au contraire, c'est une déconstruction de l'héroïsme de la résistance. Inversement, la collaboration est vraiment montrée comme l'envers de la médaille, en fait, comme deux choses dans lesquelles on s'engage sans vraiment savoir au départ à quel point ce sont des spirales dans lesquelles on ne pourra pas sortir facilement. La collaboration telle qu'elle est montrée par sur John Smith dans la série et Chilean dans le roman en particulier, je pense que les deux sont des aspects tellement nuancés que c'est vraiment intéressant parce qu'on réussit à les détester et à s'attacher à eux en même temps, constamment, à comprendre tous les enjeux psychologiques, moraux, familiaux, culturels sont en jeu dans cette idée de collaborer ou non avec une puissance étrangère ou pas. Donc, il y a ces rapports-là aussi qui nous ramènent peut-être à l'idée de la guerre civile et de l'occupation étrangère, parce qu'il y a un rapport à la culture qui est très, très particulier, autant dans le roman que dans la série. Le rapport à la culture japonaise et à la culture allemande, d'ailleurs. Donc, qui se joue de manière très différente. Je trouve que la, La fête Children dans la série est intéressante aussi parce que ça montre bien que son intérêt pour le Japon il est authentique, en fait. C'est pas comme dans le roman où on a l'impression qu'on est vraiment dans l'idée de la collaboration pure ou de l'internalisation, en fait, de ces processus-là, d'imposition culturelle dans une logique d'occupation du territoire. On est au contraire dans un intérêt authentique pour l'autre, puis il prouve dans la série de manière assez intéressante. Donc, ça permet de nuancer énormément les personnages, puis ce à quoi ils doivent passer. Et le personnage de Frank en particulier aussi, qui passe par la résistance active à la résistance symbolique par l'art. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Ouais. Donc, je voulais peut-être juste clore là-dessus. Je pense que ça montre à quel point c'est deux œuvres qui sont vraiment complémentaires, puis qui disent des choses très spécifiques de leurs époques. Donc, merci beaucoup à tous et donc à un prochain épisode.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.